הצבא שירתתי במוצב על פסגת הר, בגבול עם סוריה ולבנון. עוד כבשנו את לבנון. אמא שלי רצתה שאני אכריז שאני הומו. אז עוד היו משחררים הומואים. אני לא הומו, אולי לחוסר מזלי.
עשינו לך רע, אנשים?
רציתי להיות גיבור, חלמתי על השייטת.
Nadav Lapid est ce soir notre invité à l'occasion de son prochain film qui sort sur les écrans demain, Le genou d'Aed. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Vanessa Paradis. Où s'est passée votre enfance, Nadav?
À Tel Aviv. Je suis né à Tel Aviv. Ma mère était monteuse de cinéma, mon père un écrivain. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi.
Et donc vous avez passé votre enfance dans les cabines de montage?
Oui, très jeune, mes parents faisait partie d'un cercle très très étroit. La cinéphilie n'existait pas en Israël. Je ne sais pas s'il existe aujourd'hui, mais à l'époque, elle n'existait pas. Mais mes parents, ils étaient connectés à une sorte de cercle très très secret, presque une sorte de cellule de cinéphiles, guidée par une figure gigantesque du cinéma israélien, David Perlov. Et ils se sont réunis chez lui pour regarder le nouveau film de Bergman, le nouveau film de Pasolini, et c'est là, par exemple, moi j'ai des petits dessins, moi j'étais là-bas en train de jouer, mais j'ai des petits dessins de mon enfance, de l'âge de 4 ans, par exemple, de Chevalier d'Alexander Nevsky, par Eisenstein, parce que,
Le cinéma dans le sang, comme on dit, Nadav Lapid.
Le cinéma dans le sang, mais plus tard, en fait, ça a été remplacé par, c'est-à-dire, à mon adolescence, j'étais très, 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 très loin du cinéma. J'étais à fond dans la découverte et la virilité en me préparant pour mon service militaire. Tout cela me paraissait comme des erreurs de l'enfance, quoi.
Le cinéma
en tant représentant de la fragilité, de la sensibilité, de l'ouverture vers le monde, de la subjectivité, de tout ce qui se bat avec une forme de conformisme, tout cela. J'étais un bon élève du système israélien à l'époque. Je voulais m'exceller dans cette épreuve qui s'appelle être un bon soldat, par exemple. Donc je l'ai redécouvert que des années plus tard à Paris, quand je suis parti un an après la fin de mon service militaire pour aller vivre à Paris. Et c'est là où je l'ai redécouvert avec la Sistana d'un bon ami français qui m'a amené voir des films qui étaient mille fois plus cultivés que moi et qui m'a amené voir des Kiarostami, des Antonioni et qui m'a expliqué, qui m'a dit pour la première fois des mots comme metteur en scène. C'est à travers lui que je comprenait qu'il y a un metteur en scène et qu'il décide, qu'il prend des décisions, qu'il décide par rapport à tout. Et je voulais devenir justement cette personne-là. Et il m'a parlé du cadrage, il m'a dit cadrage, il m'a parlé du plan séquence. Et moi, quand on est allé voir ensemble un film, surtout un bon film, je pouvais pas attendre que le film se termine pour lui écouter, pour écouter ses analyses. Donc on marchait dans les rues de Paris, en buvant du vin assez mauvais et en discutant le cinéma. Et c'est là où je redécouvert le cinéma comme pour moi étant les moyens les plus, pour moi de toute façon, les plus puissants de parler ou de démontrer ou de montrer cet instant, l'existence, le présent.
Donc pendant longtemps, jusqu'au moment où vous êtes devenu un adulte, Nadav Lapid, le cinéma, c'était du côté de la douceur, voire même de la faiblesse.
Oui, parce que pour moi, dans ma tête, des gens puissants n'ont pas besoin de l'art. De l'art, c'est un peu l'apanage de fragiles, des sensibles, des capricieux, des qui ont des bons, des mauvaises humeurs. Les gens puissants, ils sourient, ils se bronzent et ils font ce qu'il faut faire, de l'argent, de la musculisation, bon, peu importe.
Et vous n'êtes pas du côté des gens puissants. Vous auriez pu devenir un homme puissant et faire carrière dans l'armée. Comment s'est passé votre service militaire, dont vous parlez d'ailleurs indirectement dans ce film qui sort sur les écrans demain, donc Le Genou d'Aed. Ce que vous racontez dans ce film, a-t-il véritablement existé?
Oui, enfin... Comme d'ailleurs dit Y, le metteur en scène dans le film, tout ce que vous allez voir a eu lieu, ou c'est vraiment passé. Tous les personnages ont vécu. Mais oui. Et moi, j'ai passé mon service militaire. Moi, à l'âge de 18 ans, je voulais que être un héros, me faire tuer pour la patrie. Sans trop comprendre de quoi s'agit-il, enfin, je pense que c'est étrange parce que à l'époque, d'un côté, vous êtes obsédé par la mort, puisque la mort aussi vous entoure. Il y a, je me souviens, chaque jour, on a ouvert le journal avec ces photos des de soldats qui sont morts au sous-Liban. Et c'était l'époque où Israël a encore conquis le sous-Liban. Et vous avez énormément de la culpabilité envers eux pour le fait d'être vivants alors qu'ils soient morts. Et vous êtes vraiment obsédé. Moi, je n'arrêtais pas de fantasmer sur mon funérail militaire et qu'est-ce que ma mère portera.
Mais vous étiez un peu morbide, non?
Mais non, mais c'est pas du tout dans la morbidité, c'est ça qui est peut-être.
Vous voulez dire que tous les autres garçons de votre âge faisaient la même chose, ils pensaient à leur funérailles.
Mais vous pensez à votre funérailles comme si ça va être encore un événement dans votre vie, c'est-à-dire vous allez mourir, puis il y aura d'autres choses et la mort sera un événement bien respectueux dans votre CV. Vous comprenez pas du tout de quoi s'agit-il, vous comprenez pas du tout l'effet définitif, évidemment, de la mort. Donc moi, j'étais en train de fêter ces moments-là qui étaient ne pas avoir peur ni de la vie ni de la mort, être les moins fragiles, les moins vulnérables possibles, admirer les dangers et les aventures. En fait, ce qui m'a sauvé d'être aujourd'hui en général à l'armée israélienne, vraiment d'aller au bout de cette carrière militaire, c'est que cette folie, cette prendre des folies, cette manque total de compréhension de la vie et de la mort, qui à la base m'a transformé à être un bon soldat, chez moi c'est pas arrêté au bon moment, j'étais vraiment trop fou, même pour les fous de l'armée. J'ai vu partout des fusils, des flingues, des armes. Donc il y avait un moment où c'était exagéré même pour eux, heureusement pour moi.
Est-il vrai qu'à l'armée, quand vous entrez dans un corps d'élite, comme vous l'avez fait Nadav Lapid dans l'armée israélienne, on donne à chaque soldat un médicament qui permet d'en finir avec la vie au cas où il y ait un encerclement militaire et une défaite possible? Donc la mort est programmée avant même que le temps de l'adversité militaire ne commence.
Moi, j'ai passé mon service militaire dans un poste sur la frontière qui a été à l'époque pris par l'armée syrienne et tous les soldats étaient soit morts, soit pris en otage. Il paraît, pas mal parmi eux torturés. Et autour de nous, il y avait tous les temps, on a tous les temps, ils nous ont raconté les histoires de la torture, les tortures qu'ils ont passées. Il y avait toutes ces choses. Une fois que vous êtes pris en otage, est-ce que vous racontez tout? Comment vous arrivez à tenir aux tortures? Ou est-ce que plutôt vous allez trouver les moyens? Donc il y avait un mythe comme si une fois qu'on va être envahi par les troupes, par les troupes, par des brigades, par les troupes de l'armée syrienne, on aura la possibilité, le privilège de se suicider. C'est pas, je crois pas que l'armée israélienne, en vérité, fournit des cachets de cyanure à ses soldats. Mais ces mythes, cette légende, ce privilège de la suicide collective, c'est quelque chose qui existe tous les temps. D'ailleurs, ça va très loin dans l'histoire israélienne. Il y a même l'histoire de Mesada, c'est les combattants israéliens qui se suicident tous ensemble et collectivement pour ne pas tomber en otage, pour ne pas devenir des esclaves aux Romains à l'époque. Donc c'est quelque chose qui vous accompagne et ça fait partie de cette réflexion perpétuelle sur la virilité et la gloire.
Et vous avez eu envie de vous suicider, Nadav Lapid? Vous y avez songé? Envie, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais vous y avez pensé?
Là, quand vous demandez ça comme ça, ça me fait penser à une sorte de psychologue militaire que j'ai croisé à l'armée, qui a plus ou moins écrit ça dans un rapport, cette personne est dangereuse, d'abord pour l'armée, après pour lui-même, et... Non, j'avais pas envie de me suicider, mais mais je flirtais avec la mort, mais comment on flirte avec un inconnu, une inconnue, avec une étrangère. C'était ce manque total de la compréhension des mots dans les sens les plus basiques et fatals du terme qui m'a amené à dire mourir comme on dit petit-déj.
Mourir au petit-déjeuner.
Par exemple.
On le sent à travers votre filmographie, Nadav Lapide. On vous aime en France, on vous admire pour tous les films que vous nous avez donnés. Je rappelle que malgré votre jeune âge, il y en a beaucoup, hein, l'institutrice, le policier, synonyme, le genou de Haed qui sort demain donc sur les écrans en France. Et ce que vous dites du rapport à la vie, à la mort, ressemble étrangement à la grammaire cinématographique que vous utilisez pour faire du cinéma. Est-ce que le cinéma a été une arme, justement, de survie? Est-ce que ça a été un basculement existentiel pour voir les choses autrement?
Je pense que... C'est-à-dire, le temps passe, la vie change, mais évidemment, il y a des choses qui vous quittent jamais. Il y a une sorte de tempérament, une sorte de mélodie jouée à l'intérieur de vous. Une sorte de vibration. Il y a votre corps qui connaissait des choses et qui sont engravées ou ancrées. Et donc, dans ce sens-là, peut-être c'est pas étonnant que j'ai fait cette sorte de cinéma qui, je crois, et même plus dans ce film-là, à mon avis, pas essayé, mais est obligé d'aller au bout de chaque moment, de pousser la tristesse, la rage et la joie, et la danse, et les discours jusqu'au bout, jusqu'à la fin, d'être fatal.
Si j'ai bien compris, vous n'avez jamais appris le cinéma. Vous avez été dans les salles de cinéma voir des maîtres, mais vous avez fait votre propre cinéma sans école.
Non, je faisais des études de cinéma à Jérusalem, quand même, enfin à l'école de Jérusalem. Mais c'est vrai que là où je me suis familiarisé avec le cinéma, c'était justement dans ces salles parisiennes, puis en lisant le cahier du cinéma dans une époque où mon français était assez basique, donc de temps en temps en m'inventant des textes, des critiques, c'était à cette époque-là.
Nous allons écouter la voix de Jean-Luc Godard. Je crois qu'il a été un de vos maîtres. Il va parler de la distance pendant l'acte de filmer. Ça aussi, c'est une thématique qui vous obsède, Nadav Lapide. C'est une archive INA du 4 mai 1967. C'était au micro d'Henri Chapier, la voix de Jean-Luc Godard.
Première leçon, c'est-à-dire ne pas se rapprocher ni se reculer, mais savoir être du premier coup à la bonne distance.
C'est ironique ou...
Ah non, non, mais je déteste le zoom, justement. Je pense que le cinéma, Lumière, n'a pas inventé le zoom. Enfin, il a tout inventé, sauf le zoom. Parce qu'il pensait qu'il suffit de... Un peintre n'a pas de zoom. Derrière la boutade, on peut trouver... Les peintres n'ont pas de zoom. Et c'est pour ça que, je crois, le cinéma, c'est peindre des choses. Un vrai travelling, c'est autre chose, parce que c'est une démarche où les perspectives changent. Ce qu'il y a d'ennuyeux dans le zoom, c'est que les perspectives ne changent pas. Ce qui est beau, c'est le changement de perspective, justement, dans un mouvement d'appareil. Moi, je pense que tout est intéressant à filmer. Enfin, où qu'on soit, il faut tâcher de choisir ce qu'on va filmer. Mais si par hasard, on ne le choisit pas, par exemple, si on vous force d'être ici un jour avec une caméra sans rien avoir choisi, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant filmer quand même? Ça, c'est... Ben, je pense ici, ben, rien de ça. Il y a la mer, le soleil, le sable, il y a plein d'autres choses. Rien qu'une trace de pas par terre, on peut filmer ça et puis essayer de savoir qui a fait cette trace de pas. Il y a déjà tout un scénario.
Nous venons d'entendre la voix de Jean-Luc Godard. Saviez-vous toujours où placer votre caméra, Nadav Lapid? Parce que votre grammaire cinématographique est très singulière dans le paysage international. Je rappelle que pour Le Genou d'aide, qui sort demain en salle en France, vous avez obtenu le prix du jury, notamment sans doute par cette grammaire cinématographique, cette manière exaspérée, tendue, on pourrait dire presque hystérique et super nerveuse de votre manière d'utiliser la caméra. Vous savez toujours où elle doit être, cette caméra?
Je me parle. Enfin, ça marche plus ou moins comme ça chez moi. Je commence à me parler et je dis, et plus j'avance, plus j'arrive, ou j'essaye d'arriver à dire la chose. Et en disant la chose, bon, on est à la radio, donc on peut pas voir la manière que je bouge mes mains là, mais en disant
vous
la chose.
Vous bougez beaucoup.
Oui, mais en disant la chose, maman commence à comprendre d'où, comment et quel genre de mouvements. Ce qui me guide toujours, c'est désir qui, pour moi, est à la base du cinéma, que votre acteur ou actrice la plus importante soit la caméra. Enfin, je pense que d'une certaine manière, la caméra aurait été fait partie de la liste des acteurs dans les films. Et je cherche de l'arracher de cette distance froide qu'elle garde très souvent, de cette position d'être protégé par tous ses assistants qui courent partout pour la nettoyer, pour la protéger du moindre grain de poussière, pour la faire plonger à l'intérieur de cette mer agitée, cet océan agité qui est le moment, l'instant, la scène.
Votre actrice principale, c'est la caméra, venez-vous de dire, et tout le début de votre film le montre, parce que sans porter atteinte au plaisir qu'auront les auditrices et les auditeurs quand ils découvriront votre film à partir de demain, on peut dire que les premières minutes, c'est la caméra. Et c'est la caméra qui est installée sur un pare-brise de voiture, qui traverse Tel Aviv par une journée de pluie, c'est-à-dire c'est la désolation, la tristesse, la mélancolie, et c'est la caméra qui va essayer de trouver un tout petit peu de lumière à travers les gouttes de pluie. Et je me suis demandé si vous n'étiez pas un homme caméra, vous. Votre tête, c'est peut-être une caméra. Godard vient de dire dans l'archive, voyez, on est sur la plage, c'est le festival de Cannes, il y a des bateaux, il y a la mer, il y a les vagues qu'on entend, mais moi, une trace de pas dans le sable, je le filme, ça me va. Et vous, vous filmez tout le temps dans votre tête?
C'est-à-dire, je dirais que je me sens le plus vivant en cadrant. Pour moi, les moments où vous vous rapprochez le plus à la vie, c'est quand vous la cadrez. Et je pense qu'un film me permet d'être en intimité avec l'existence et avec le monde. Ce sont des moments intimes avec, pas seulement avec votre propre film, mais avec le soleil, avec le ciel, avec les sables, avec les yeux des autres. Si à ce moment-là, vous ne dansez pas avec l'univers, donc je me demande quand est-ce que vous les ferez.
Alors vous parlez de cadrage, vos films se caractérisent aussi par une singulière manière de cadrer les visages notamment, de cadrer les paysages, visages et paysages sont les atouts essentiels de votre grammaire cinématographique. Mais il y a aussi autre chose, c'est la rage. La rage d'exister. Alors, dans vos films précédents, il y avait une rage politique, poétique, existentielle. Là, il y a une rage poétique et politique et aussi existentielle. Mais il y a de plus en plus de rage. Est-ce que vous êtes un homme en colère? Et est-ce que le cinéma vous sert d'exutoire, pas forcément, mais de manière de transmettre votre rage, Nadav Lapid.
Enfin, pour moi, une des meilleures raisons de faire quelque chose, et surtout de faire un film, c'est de parler d'une vie, d'un monde qui aurait pu être différent et qui aurait dû être différent.
Et ça, c'est l'utopie. Vous filmez le réel.
Oui, mais je filme le réel en se cognant contre le réel, en se battant contre le réel. J'admire le présent. Je suis pas du tout dans la nostalgie. Je pense que je comprends pas un cinéaste qui admire pas le présent, parce que le présent, c'est notre royaume en tant que cinéaste. Mais je l'admire en me battant avec lui. Et ce sont les relations les plus intimes. Je pense que j'ai dans ce sens-là, j'ai des relations super intimes avec ce moment-là, avec cet instant-là, avec le présent. Et s'il n'y a pas de la rage là-dedans, s'il n'y a pas de corps qui se battent, et, il n'y a pour moi pas de l'intimité.
Nous allons écouter la voix d'un autre cinéaste qui vous inspire aussi. Je crois que vous avez vu tous ses films. C'est évidemment Éric Rohmer. Votre film s'intitule « Le genou d'Aed ». On expliquera tout à l'heure qui est Aed, même si la plupart de nos auditeurs le savent, puisqu'elle est devenue une héroïne aux yeux de certains pour le geste qu'elle a fait alors qu'elle était très jeune et qu'elle a giflé un soldat israélien au nom de toute l'histoire de sa famille. Éric Rohmer, nous allons l'écouter. Il va expliquer quel est son amour du cinéma, pourquoi il fait du cinéma, et il va parler du montage. C'est une archivina du 6 octobre 1987 et nous écouterons peut-être à la suite un extrait du Genou de Claire, un film magnifique qui date de 1970.
Ce que je pense, que le cinéma nous apprend à ne pas avoir d'a priori sur les choses. C'est ce que j'aime précisément chez les gens comme moi. Ce qui ne veut pas dire pour autant être impassible. Mais il ne faut pas les truquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, en particulier, j'étais contre un cinéma de montage. Parce que le cinéma de montage trafique la réalité. C'est-à-dire, avec le cinéma de montage, on peut mentir énormément. On le voit par exemple dans les reportages. Bon, on peut montrer que le noir est blanc et le blanc est noir uniquement en collant une certaine image après une autre. Alors, ce que nous avons appris chez nous, parce que c'est pas seulement moi, c'est tous les gens de ma génération, ce que nous avons appris chez Rossellini, c'est d'avoir un regard direct sur les choses, c'est ça, de pas les truquer. Et ne pas procéder, si vous voulez, à cette espèce de rhétorique cinématographique. On a voulu faire le contraire du cinéma publicitaire. On pourrait dire que tout le cinéma actuel est un cinéma inspiré de la pub. Bon. Eh bien, non, le cinéma publicitaire, moi, je ne le... Enfin, je lui tourne le dos. Alors, vous me direz... Enfin, vous me direz, je vous dis, vous me direz... Peut-être que vous vouliez me poser cette question. Non. Vous me diriez Hitchcock, parce que j'ai écrit un livre sur Hitchcock. Oui. Évidemment, Hitchcock, c'est un truqueur. Non. Mais oui, mais cela dit, je pense que si, même si j'ai admiré Hitchcock, je suis beaucoup moins Hitchcockien dans ce que je fais, dans mes films. Je pense être moins Hitchcockien que Rossellinien. Mais Hitchcock est un truqueur, mais enfin, il ne l'est pas tellement. Si vous voulez, il y a le trucage, disons, le trucage est apparent et la sincérité est peut-être plus cachée, si vous voulez, mais elle est là aussi.
Je ne suis pas du tout amie avec les gens que j'aime. Aimer, ça me rend mauvaise.
Ah oui? Moi, non. Je ne crois pas avoir l'amour sans amitié.
Peut-être. Mais chez moi, l'amitié vient après.
Après ou avant, peu importe. En tous les cas, il y a une chose très belle qu'on trouve dans l'amitié que j'aurais bien qu'on trouve dans l'amour. C'est qu'on respecte la liberté des autres. Il n'y a pas cette idée de possession.
Je suis possessive. Horriblement possessive.
Ah oui? Il ne faut pas être possessive. Tu vas t'empoisonner la vie, mon petit.
Je sais. Je suis née pour être malheureuse. D'ailleurs, je ne serai pas malheureuse. Je suis très gaie, je ne pense qu'aux choses gaies. On est malheureux quand on veut l'être. Moi, quand j'ai des ennuis, je pense qu'il y a des moments gais et que, de toute façon, ça ne sert à rien de pleurer. Je pense que je suis sur la terre, que c'est merveilleux, que je vais bien m'amuser.
Qu'est-ce que tu appelles t'amuser ?
M'amuser ? C'est vivre. Par exemple, aujourd'hui, je suis très gaie. Demain, peut-être, je serai triste. Alors, je me force. Je pense à autre chose. Je mets mon cerveau en éveil sur une chose précise. Je trouve cette chose formidable. Je suis gaie pour le reste de la journée.
Nous venons d'entendre un extrait du Genou de Claire d'Éric Rohmer, film qui date de 1970, qui n'a pas pris une ride. Votre film, La Dave Lapide, s'intitule Le Genou d'Aed. Aed Tamimi, c'est une militante palestinienne qui doit avoir une vingtaine d'années maintenant aujourd'hui et qui s'est fait connaître dans le monde entier. C'était en décembre 2017, je crois, parce qu'elle avait giflé un soldat israélien lors d'une visite de soldats israéliens dans son propre village en Palestine. Et la presse avait pris cet acte comme un acte de courage, selon qu'on est pacifiste, ou comme un acte de désobéissance très violent si l'on est plutôt du côté de l'armée. Et un député d'extrême droite en Israël avait dit cette phrase absolument monstrueuse à propos de cette jeune femme, Aed, avait dit « mais on l'a arrêtée, on l'a emprisonnée, je crois qu'elle a fait plusieurs mois de prison, mais on aurait dû lui tirer dans le genou ». Et cette histoire, qui n'est pas du tout un fait divers, qui est un acte de désobéissance civile au sens le plus noble du terme, est au cœur de la problématique de votre nouveau film. Avec ce jeu de mots, avec le titre du film de Rohmer. Mais on n'est pas dans le libertinage amoureux. Là, on est frontalement dans une histoire de résistance.
Oui, enfin, je pense que mon film porte sur la résistance et le rejet et les conséquences politiques, mais aussi personnelles et intimes, existentielles qu'on a à vivre et avec la politique dans les niveaux les plus intimes. Quand vous allez vous coucher le soir avec la politique ou avec les pays, que ce soit en forme de relations de couple ou que ce soit en forme de rivalités, résistance ou rejet, quand vous vous réveillez le matin et vous vous dites « je suis toujours et encore en Israël », que ce soit comme un cri de joie ou un cri de désespoir, mais finalement... Ça vous vide de vous-même, mais ça s'installe à l'intérieur de vous. Et d'une certaine manière, il n'y a plus de bon choix, ni la collaboration, évidemment, avec ce qui est injuste. Mais même si vous êtes en position noble et tout à fait justifiée de résistance, de rejet, de bataille, de combat, à force d'avoir encore et encore raison, vous devenez mal.
Donc il vaut mieux changer de combat, changer de territoire, et je crois savoir c'est ce que vous avez fait concrètement dans votre vie, puisque vous venez de quitter Israël et vous vous installez en France ces jours-ci. Mais on en reparlera tout à l'heure, vous écoutez France Inter, vous écoutez le choix musical de Nadav Lapid pour notre plus grand bonheur, la chanson des jumelles dans Les Demoiselles de Rochefort.
Ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Ben non. Tu crois?
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva, travailla vaillamment.
Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites.
Nous sommes toutes deux nées de pères inconnus, cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté
qu'il avait sur la joue.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux.
fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Et mon ami tourne les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu d'appeler coup de foudre ou sauvage passion. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionnée,
musicienne,
acrobate,
cherchant un homme beau,
cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à bobo.
Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris.
Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Deux cœurs quatre prunelles à embarquer à l'Egrégo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Oh, mais dis-moi le cas. Ça y est, je suis en retard.
Delphine.
Oui.
Tu vas chercher Boubou?
Oh, tu veux pas y aller?
Bah, j'y reste après-midi.
Oh, je peux pas sortir avec ça.
Oh, puis si. Oh, puis non.
J'ai rendez-vous à midi avec Guillaume, je n'y serai jamais.
Qu'est-ce qu'il va encore, celui-là?
Je ne sais pas, me voir.
Oh, ben, il attendra.
Tu rentres déjeuner?
Oui, mais pas avant une heure.
Qu'est-ce que j'ai fait de mon poudrier?
Ah non, je vais.
Joie du bien.
Elle n'est pas explicite et il est parfois difficile de l'identifier. C'est de l'autocensure, c'est une autre forme de censure, mais je pense qu'il n'y a pratiquement aucune situation dans laquelle une institution officielle vous dit « ça, vous ne pouvez pas le faire ». Si il existe une censure, il est souvent très difficile mettre le doigt sur cette censure et de dire voilà ce qui a été censuré. Les gens comprennent qu'il s'agisse des gens qui sélectionnent les œuvres d'art ou les gens qui créent même les œuvres d'art, comprennent ce qu'ils ont droit de faire, ce qu'ils n'ont pas droit de faire. Vous savez, jusqu'à récemment, je vous aurais dit qu'Israël est une démocratie merveilleuse si vous êtes juif. Aujourd'hui, même cela, je pense qu'on est en train de le remettre en cause. Récemment, la Cour suprême a approuvé la loi qui interdit les citoyens israéliens à appeler au boycott d'Israël ou au boycott des colonies. Et si quelqu'un appelle à un tel boycott, il risque d'être soumis à une très forte amende si on prouve qu'il a causé des dommages. Et c'est une atteinte à la liberté d'expression. Autrefois, on pensait parfois que les Palestiniens ne jouissaient pas de la démocratie. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des Juifs qui ne jouissent pas de cette démocratie.
Nous venons d'entendre les propos du cinéaste Avi Mograbi, cinéaste israélien comme vous, Nadav Lapid, à propos de la censure en Israël. Ces propos datent de mars 2016. Nous sommes en 2021, à l'automne 2021. Une des problématiques et une des thématiques principales de ce nouveau film que vous venez de signer, Le genou d'Aed, c'est justement l'autocensure. Ce n'est pas la censure, car on comprend très bien à travers votre film que en Israël, il n'y a pas de censure, mais que ce qui est de plus en plus difficile, c'est la porosité des interdictions à l'intérieur de son propre corps et de sa propre psyché pour justement obéir à ce qui vous est demandé. Est-ce que vous avez l'impression que l'autocensure a progressé en Israël et souscrivez-vous aux propos de Avi Mograbi?
Oui, sans doute. L'autocensure a beaucoup avancé, a beaucoup évolué. Et ça dérive du fait que cette autocensure est en dialogue avec quelque chose qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Que, en fait, ces interdictions... Je peux pas parler au nom d'Avi Mograbi, mais je parlais... Même moi, j'ai des instants... des trucs instinctifs de dire non, ça c'est trop, ça c'est, il faut peut-être aller ailleurs. Ça va avec une certaine formation, une certaine mode de pensée. C'est pour cela qu'il faut, qu'il y a que la liberté du cinéma, à mon avis, qui peut la faire face. Si vous rentrez à une sorte de combat et sec des constats et d'idées, vous allez perdre parce que vous-même, d'une certaine manière, vous en faites partie. Mais si vous faites appel à l'art, au cinéma, à la caméra, de vous sauver de ces prisons de débats à l'intérieur de vous-même, je pense que c'est là où vous regagnez la liberté.
Il y a plusieurs climats, il y a plusieurs paysages mentaux à l'intérieur de votre dernier film, Nadav Lapid. Il y a le prologue qui a trait à l'actualité de votre propre pays, à la situation des Palestiniens. Il y a le seconde partie qui a trait... Là, on peut dire que c'est presque un autoportrait à l'existence d'un cinéaste aujourd'hui même, dans l'intensité du présent, dans ce pays qui s'appelle Israël, et qui va être invité à parler de son nouveau film en quittant Jérusalem. Et lors de cette projection qui va être projetée devant des personnes qui ne connaissent pas le cinéaste, il va être en proie à des questions par une fonctionnaire qui assure la sécurité et le bon déroulement de cette soirée et qui va lui livrer un questionnaire. Et là, il y a quelque chose qu'on voit rarement au cinéma. Il y a votre acteur qui joue le cinéaste, c'est-à-dire, je pense, un peu beaucoup de vous-même, et qui va littéralement, devant la caméra, péter les plombs. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Est-ce qu'il est en guerre contre lui-même? Est-ce qu'il est en guerre contre son propre pays? Est-ce qu'il est en guerre contre le fait qu'il soit vivant, tout simplement?
Je pense que tous ces films et tous les temps au bout de l'écroulement, au bout du pleur, et au centre du film, il y a quelqu'un qui, même quand il se tient le plus droit possible, il a déjà le goût du sable dans sa bouche. Et il doit tous les temps monter le niveau du son, monter le niveau du cri. Et il y a un moment, moi je me suis demandé à quoi ça ressemblait quelqu'un qui fait un tel discours qui l'amène presque à la mort. Mourir, s'écrouler, s'évanouir, tomber par terre, se trouver à genoux, à force de dire tous les mots possibles, à force de se trouver sans mots, à force de se rendre compte aussi du fait que vos mots ne changent pas le monde. Et je pense que ces moments, pour moi, c'est justement ça. D'ailleurs, je voulais dire quelque chose. Vous avez parlé justement du fait que le film, il a plusieurs parties, il est ceci et cela. Et pour moi, c'est important de dire que enfin, moi, dans ma tête, je ne sais pas, j'ai jamais tenté, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est un film dur ou pas dur, ou un film d'auteur, ou un film expérimental. La seule chose que je pense, que je sais, c'est qu'est-ce que c'est un film vivant. Et je pense qu'on a l'impression de voir tant de films qui meurent alors qu'ils sont encore sur l'écran, que pour moi, cette vivacité, c'est la chose qui me guide. Je pense que une grande partie de cette vivacité, ce n'est pas être classifié, de ne pas être mis dans une case. Et si vous regardez ces films, entre la première et la dixième seconde, il y a une sorte de quelque chose d'existentiel, le ciel abstrait. Puis il devient un film d'action, presque James Bond. Puis il devient un film musical, quand on chante du Guns N' Roses, et un film de la politique radicale. Donc déjà à l'intérieur des premières cinq minutes, je pense. Et c'est pas, c'est à force, je pense, de toucher, tel que je le vois, les chaos de la vie qu'on connaît tous, mais qu'on ne trouve pas toujours sur l'écran.
Vos derniers plans sont bouleversants, Nadav Lapine. On peut simplement dire que vous allez de nouveau filmer le ciel, la tombée du jour, que vous faisiez du cinéma avec votre mère, qui était votre monteuse, que votre mère vient de disparaître. Est-ce une des raisons pour lesquelles vous avez quitté Israël pour continuer votre vie loin de la terre où repose désormais votre mère?
Oui, enfin, pour moi, c'est toujours, il y a toujours quelque chose de presque irraisonnable de ne pas vivre là où vos parents sont enterrés. Ma mère avait l'habitude de dire cette phrase à la fin, c'est la géographie qui gagne, qui d'ailleurs est citée dans les films. Et jamais je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'elle voulait finalement dire? La phrase était tellement belle qu'il fallait pas trop l'interpréter. Et elle a dit cette phrase plusieurs fois à mon frère et à moi en vous demandant de partir, de quitter le pays, de quitter Israël pour ne pas être battu par la géographie. Et oui, je pense, oui, évidemment, dans ce film, il y a une sorte d'adieu et à ma mère et à Israël. Mais dans ce sens-là aussi, je pense que c'est mon film, à la toute fin, sans trop raconter, le plus bizarrement, le plus optimiste et le plus généreux. Puisqu'il se termine avec une sorte de petit miracle. Pas ces grands miracles de gagner contre le destin et la dégradation du pays, pas en gagnant, pas la victoire impossible contre la mort, mais les petits miracles qui se passent discrets, qui se passent à l'intérieur de l'âme d'une seule personne, entre lui et lui-même. Vous savez, je pense que c'est Simon Eros, c'est une sorte de prophète désespéré. Je pense que c'est que les gens désespérés qui ont besoin de miracles.
Merci infiniment, Nadav Lapide. Je rappelle que votre film sort demain sur les écrans en France. Le genou d'Aed, déjà auréolé par le prix du jury du Festival de Cannes. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Now my apology, all the light came in to form and be my mind. Reach out to all the ones who came before you. Ponder what is right, you and I in defiance. Speak out the conversation they afford you. Wisdom of the wise, you and I in defiance. And I come from country.
change my way. You know I take it all to heart. Home is where you called my name. I've gone as far as the eye can play.
Et c'est avec Soufiane Stevens que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Benjamin Troncin qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanessian. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.